Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, heureuse de vous retrouver cette semaine. Guillaume nous présente le travail du groupe Fontana Rosa, un quatuor lyonnais. Gaëlle nous fait la visite guidée de la nouvelle exposition de la Fondation Bulukian, Imago de Yann Lacroix, et Thomas nous fait entendre les mots de Julien Gracq. Et bien sûr, nous terminerons avec nos Gédéons pour prolonger le plaisir. Nous débutons avec toi, Guillaume, et ton invité, un des quatre, Paul, en l'occurrence, du groupe Fontana Rosa. Ravi de vous recevoir tous les deux. Merci à vous.
Oui, alors bonsoir, Paul. En fait, Fontana Rosa, c'est plutôt toi, et puis maintenant, c'est agrégé des musiciens au groupe. Vous sortez un deuxième album au mois d'avril, sur un super label que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alling Banana, qui sort toujours des albums d'artistes absolument géniaux. Alors certes un peu confidentiels, mais enfin qu'on espère moins confidentiels, comme Orsiz ou Johnny Mafia, que j'adore, qui vont sortir aussi un album. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce disque? C'est le deuxième, donc.
C'est le deuxième LP. En fait, ça avait commencé avec un premier EP en 2020, période Covid, et puis un premier album il y a 2 ans, en 2022. Donc là, c'est le deuxième album qui est prévu pour le 19 avril, donc chez Alling Banana. Que dire sur cet album? Je pense que c'est l'approfondissement de quelque chose qui avait été déjà abordé sur le premier, des parties pris esthétiques qui ont été plus affirmées en fait par rapport à certaines chansons qui étaient déjà abordées sur le premier album. C'est-à-dire que moi, je pourrais faire un triptyque avec des chansons comme Way In Out, Anytime ou Off Motion, qui pour moi avaient quelque chose d'assez introspectif et profond, que j'avais envie de... d'approfondir sur cet album.
Ce qui est étrange, c'est que souvent quand on veut décrire un petit peu votre musique, certains parlent de Britpop, alors que moi je vois pas du tout ça en fait.
D'accord.
Moi quand je vous écoute, et notamment je trouve qu'il y a un son de guitare qui est très particulier, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais moi ça me fait penser à Johnny Marr et ça me fait penser aux Smiths. Je trouve vraiment qu'il y a une part belle faite aux guitares. Et comment tu travailles les morceaux? Parce que je crois savoir que tu écris guitare-voix d'abord et ensuite ça s'étoffe.
J'essaie de trouver une amorce guitare-voix, des couleurs en fait qui donnent un ton en fait, et après je travaille une structure autour de ça. Mais c'est vrai que le jeu de guitare très inspiré de guitaristes folk aussi anglais. Et c'est marrant en fait qu'on nous parle souvent en fait des années 80 un peu. Alors moi j'ai jamais trop écouté de musique des années 80.
Je me doute.
Alors je connais les années 60, 70, 90, 2000, mais j'ai un gros fossé dans les années 80. Alors peut-être que je le comble justement inconsciemment. Mais je pense que c'est le côté guitare un peu carillonnante qu'on peut trouver dans les guitares folk qui sont transposées sur un jeu de guitare électrique, parce que moi j'aime bien le rock'n'roll et le son très médium qui claque. Donc effectivement c'est peut-être cette espèce de bizarrerie qui fait que ça appelle à Johnny Marr peut-être.
Oui, oui, oui. Et puis un petit côté un peu à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire désormais sur scène vous êtes basse, guitare, batterie, non mais il n'y a pas de clavier, d'électro, de choses comme ça, pas trop en fait.
Non, il n'y a pas ça. Alors pour le coup, sur cet album-là, il y a des éléments de production un peu faits au synthé. Mais c'est vrai que le cœur du projet, c'est quand même essayer de trouver, de dépasser un peu des frontières avec ce mode très classique qui est les deux guitares, basse, batterie, quoi.
Alors le titre de l'album, on l'a pas donné. Hein, c'est donc Take a Look at the Sea. Donc ça évoque les voyages. Voilà. En plus, j'ai cru comprendre que toi, tu avais pas mal bourlingué. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Pourquoi regarder la mer alors?
C'est l'ouverture. C'est aussi, après ce premier album qui s'appelait Are You There, qui était une tentative de réconciliation avec mes tourments. Je pense que Take a Look at the Sea, c'était après avoir posé ce premier socle de s'ouvrir vers cette expression-là, Take a Look at the Sea, vers la mer. C'est pas apprendre au sens premier degré. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi, pour moi, la symbolique de la mer, c'est que c'est aussi une zone franche, en fait, qui appartient pas à une culture particulière. La mer, c'est ni français, ni anglais, ni brésilien, ni quoi que ce soit. Et du coup, ça réunit tout le monde et personne à la fois. Parce que j'aime bien, en fait, cette espèce de non-lieu qui est la mer. Voilà, aussi.
Alors, vient de sortir un titre, un premier titre, extrait de l'album, Heartland. avec un clip très simple, mais pourtant très, comment dire, enflammé, si j'ose dire, parce que parce que il y a des allumettes, il y a du feu, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Heartland?
Heartland, c'est, ça veut dire la région centrale, la région d'origine. Et je pense que c'est un cri du cœur, cette chanson, où justement, de par mon histoire, comme j'ai toujours été pas mal déraciné et que je n'ai pas de sentiment d'appartenance à quelque part ou à quoi que ce soit, en fait, je chante ça, en fait.
Alors, le hasard a fait qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail aussi concernant une autre personne qui porte ton nom. Je me suis dit, mais c'est quand même très étrange parce qu'il, physiquement, il te ressemble beaucoup aussi.
Ah ouais ?
Voilà. Non, c'est pas, t'as pas un frère qui fait de la musique ? Pas du
ah,
tout ?
Ah si, Marc Vervard.
Oui.
Oui, oui, bien sûr. Ouais, si, c'est mon frère. Je croyais que tu disais quelqu'un Fontana Rosa parce qu'il y a une famille qui s'appelle Fontana Rosa aussi. Qui est de la
c'est vrai qu'on n'a pas parlé du nom parce Fontana Rosa, est-ce que c'est la petite ville italienne qui est à côté de Naples, enfin pas très loin de Naples ? Pourquoi ce nom finalement ?
Non. C'est inspiré de Lucien Fontana Rosa.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, qui était peintre.
Bah oui.
En fait, je discutais avec ma grand-mère qui avait rencontré cet homme-là à une époque de sa vie. Et quand le nom, quand elle m'a annoncé son nom, j'ai trouvé que le nom était super. Et qu'en plus de ça, c'était joli quand ça s'écrit. Et je me suis dit, bah, c'est super, je vais prendre ce nom-là. Enfin, ça m'a appelé, quoi.
Et donc, tu as un frère aussi qui fait de
j'ai
la musique
frère
qui vient de sortir un EP, là, juste là.
Je crois qu'il le sort demain, mais c'est en ce moment.
Voilà, c'est en ce moment.
Ouais.
Et donc, vous avez jamais eu l'idée, de partager votre passion de la musique, ou peut-être que vous l'avez fait quand vous étiez enfant, mais pas là, maintenant.
Après, il m'a appris quelques accords quand j'étais gamin, effectivement. Et après, lui, il est parti à Paris, moi, j'étais à Lyon, Annecy, et on a quand même des avis différents. Sur les esthétiques musicales, ce qui fait que c'est jamais trop retrouvé sur l'idée de faire un projet ensemble.
Tu peux peut-être nous parler de la release party du disque, alors qui ne sera pas à Lyon. J'espère qu'il y aura des dates à Lyon.
Ah
mais...
si, il y en a une qui sera prévue au Périscope, qui n'est pas encore annoncée.
Qui n'est pas encore annoncée.
Par le Périscope non plus, mais qui sera fin avril, le 30 avril au Périscope aussi.
30 avril au Périscope, ouais. Mais je crois que tu fais une date à Paris pour la release, non
c'est... Oui, c'est ça. On joue le 29 mai au Point Éphémère.
Au Point Éphémère à Paris, ouais. Voilà. Bah, on va peut-être écouter le morceau, donc Heartland de Fontana Rosa. I got up and I got it by your absence in my slip, overwhelming in my steps. We've been loved and we've been left. I like you. Donc c'était Heartland de Fontana Rosa. Donc l'album, tu peux peut-être nous redonner le titre.
Oui, Take a Look at the Sea.
Parce que ton anglais est bien meilleur. Ça c'est un truc aussi que j'apprécie énormément dans le groupe, c'est que les Français qui chantent en anglais, souvent c'est très compliqué. Enfin vraiment, voilà. Et toi, c'est complètement différent, mais parce que tu as des origines très particulières qui font que ton anglais est quand même... Voilà.
J'ai de la famille anglaise, et je pense que particulièrement, c'est comme j'ai grandi dans différents pays, j'ai appris en fait à être souple avec le langage.
C'est ça. Mais en tout cas, moi je vous invite à écouter ce disque. C'est vraiment un disque très lumineux. Moi j'adore les guitares, encore une fois, quand super. Tu disais... Moi j'ai écrit un petit article récemment et je disais les guitares sont coruscantes.
On n'a pas de pédale de chorus, mais on provoque le chorus par le frottement avec le médiator.
D'accord. Ouais, bah, écoute, je te remercie, Paul, et puis à très bientôt sur la scène donc du Périscope. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
L'exposition Imago Yann Lacroix résulte d'une collaboration inédite entre la Fondation Bulukian, sous le commissariat de Fanny Robin, et l'Abbaye royale de Fontevraud, sous la direction artistique d'Emmanuel Morin. 2024 marque les 40 ans de la mort de Napoléon Bulukian, figure tutélaire à l'instigation de la Fondation. Pour lui rendre hommage, la Fondation a été soucieuse de s'inscrire dans un projet mettant à l'honneur l'histoire, l'ancrage et la pérennité. Elle a ainsi trouvé en l'abbaye de Fontevraud le partenaire idoine. L'abbaye est labellisée CCR, Centre culturel de rencontre, par le ministère de la Culture. Cette appellation est attribuée aux monuments historiques qui, ayant perdu leur vocation d'origine, se dotent d'un projet culturel, artistique ou intellectuel. De cette collaboration est née la première résidence Bulukian Fontevraud. Le lauréat 2024 est Yann Lacroix. L'artiste né en 1986 inaugure le partenariat entre les deux institutions. Cette coopération vise à accompagner la création des artistes et accroître la diffusion de leur travail. Lors de sa résidence de 4 mois, Yann Lacroix s'est non seulement imprégné de la valeur patrimoniale, symbolique et spirituelle de l'abbaye, mais aussi de traditions arméniennes et de la ville de Lyon. L'artiste, imprégné par les thématiques de l'histoire et de la mémoire, a pu, grâce à cette résidence, créer sur un temps long et prendre ce moment de pause que l'abbaye de Fontevraud, véritable lieu en suspension, permet. Imago Yann Lacroix est la restitution à la Fondation Bulukian de cette résidence. L'exposition convoque René Char, je le cite, « L'intensité est silencieuse, son image ne l'est pas ». Car avec Imago, image en latin, c'est bien une certaine idée de la représentation que propose Yann Lacroix. Des formes ressemblantes, des illusions, mais aussi des énigmes, des rébus à décrypter. Les œuvres font souvent référence à l'empreinte, la trace et à des réalités absentes, voire parfois abstraites. Le parcours s'ouvre sur un petit format. Des pommes, simple. Cette image axée sur l'essence même de la forme demeure symboliquement chargée avec des références à Newton et à la Bible. En vis-à-vis figure la maison de Dieu, une matérialisation de la mémoire que l'on perd et recouvre. Cette idée s'objective dans la technique de Yann Lacroix, une démarche par accumulation de motifs qui l'efface ou recouvre. Toutes les couches superposées de manière intuitive fonctionnent comme un palimpseste. Des visions spectrales émergent. L'artiste travaille les matières, fouille, creuse, clin d'œil à la sérendipité qui permet le surgissement de l'accident créatif heureux. Yann Lacroix avoue avoir été saisi par les registres picturaux qui sont apparus. Le grand diptyque intitulé « Luc d'un homme » affirme un dialogue entre passé et présent, entre les architectures de Fontevraud et Lyonnaise, avec également un écho au « Rajkar », les pierres à croix arméniennes. « Luc d'un homme » comprend de majestueux trompe-l'œil avec des effets de faux marbre et des bas-reliefs. Bas-reliefs qui résonnent avec ceux prêtés spécifiquement pour l'exposition par le musée lyonnais Luc d'un homme et Théâtre romain. La végétation tropicale, sujet que Yann Lacroix traite depuis longtemps, est abordée soit de manière autonome, cas du petit format avec des figues de Barbarie intitulées Memento, soit en dialogue avec l'architecture de l'abbaye, cas de Barocco, qui, sur une hauteur de 1,80 m, déploie depuis le dallage à cabochon de l'abbaye des monsteras, ces plantes aux feuilles arrondies et ajourées. Fra Angelico est évoqué dans deux petits formats, tout autant modestes qu'extrêmement lumineux. On songerait presque qu'un rétroéclairage a été utilisé. Le premier petit format, sans titre, offre une relecture de l'Annonciation de 1426 de Fra Angelico, que Yann Lacroix a vue au musée du Prado. Mais l'artiste n'a conservé que l'architecture, la fameuse loggia et ses arcades révélant des voûtes revêtues d'un bleu profond en lapis-lazuli. Le deuxième petit format, sobrement intitulé « Fra », mêle des empreintes de motifs de la fuite en Égypte de Giotto, les arches de l'Annonciation de Fra Angelico et des plantes monstera issues de l'œuvre barocco. Dans l'œuvre « Chapelle » de 2,30 m de haut, l'architecture perse ça et là, les motifs se manifestent ou sont éclipsés, car l'artiste offre un rendu qui relève de l'effacement. Visiter l'abbaye de Fontevraud, c'est en effet se confronter à un contenant, car l'abbaye est vide. Yann Lacroix transmet l'idée de cette puissante confrontation avec des pierres rehaussées d'une palette de belles poudres rouges et dorées. Féru d'histoire de l'art, l'artiste multiplie les références. Dans l'œuvre « Chapelle », l'ornementation d'un chapiteau s'inspire de l'abbatiale romane d'Issoire. Une autre référence musicale cette fois est faite à l'Arménie. Le son assez hypnotique du duduk, un traditionnel hautbois arménien, vous accompagne tout au long de votre déambulation. Ce fond sonore fonctionne plus comme une divination, un souffle, une respiration. Ni début ni fin pour cette musique qui reboucle, comme le travail de Yann Lacroix, qui est axé sur un suspens. La musique du duduk résonne avec le travail intemporel de l'artiste. L'exposition Imago de Yann Lacroix est programmée à la Fondation Bulukian jusqu'au 13 avril 2024. Plus d'informations sur bulukian.com, puis l'exposition sera visible à l'abbaye de Fontevraud de juin à septembre.
Thomas, cette semaine, ce sont les mots de Julien Gracq que tu as eu envie de partager. On t'écoute et on parle de cet auteur pas tout à fait ordinaire à son époque.
Les eaux étroites. Mais la rêverie n'est pas toujours, et de bout en bout matérielle, liée qu'elle est, comme le pense Gaston Bachelard, elle l'est sans doute le plus souvent, à l'emprise de quelque génie élémentaire qui s'éveillerait dans la matière comme son cœur noir. La rêverie fascinée, la plus exclusive, la plus obsédante de toutes, conduit sans doute par un chemin descendant, selon une pesanteur spécifique, vers ces régions frontières où l'esprit se laisse engluer par le monde et presque intégrer dans un de ses règnes. Mais il existe une autre rêverie, plus rare, à laquelle sont liés d'autres privilèges et que signale presque toujours le sentiment de liberté et souvent d'ubiquité foudroyante qui s'attache au plus beau rêve de vol. Rêverie ascensionnelle tendant, non vers l'indistinction finale et vers la sécurité de l'élément, mais plutôt vers la totale liberté d'association qui remet sans trêve dans le jeu les significations et les images. Son climat exclusif est la vitesse et son trajet d'élection, le court-circuit. Une légèreté irréelle, un certain sentiment de bonheur, aussi dans la légèreté auquel rien ne ressemble, dès qu'on s'y engage s'empare de l'esprit. Comme si une perspective sans fond de trapèze volant aux oscillations miraculeusement conjuguées faisait danser devant lui tous les chemins de l'air. Une telle rêverie s'éveille surtout à certains moments d'exception, portée, propulsée par le flux d'énergie que libère la réanimation par la mémoire d'objets ou de paysages auxquels s'est attachée pour nous, autrefois, une tonalité affective violente, comme si cette mémoire, en les ressuscitant, disposait soudain sur eux d'un pouvoir magique de fission. Le nom de Proust est lié à la résurrection d'un fragment aboli du passé par l'intermédiaire d'une retrouvaille d'objets. Mais ce désenchaînement, soudain par le souvenir d'un génie prisonnier de la matière, comme ces esprits qu'une fée méchante met en bouteille, bien plus souvent que du quiétisme de l'illumination proustienne, c'est d'une fugue allègre et enfiévrée qu'il est pour moi le moteur et le principe. À son étincelle ranimée, les images chères et longtemps obscurcies, toutes les images, s'enflamment et vont se rallumant l'une à l'autre, un tracé pyrotechnique zigzague au travers du monde assoupi et le sillonne en éclairs en suivant les clivages secrets qui, année après année, d'une expérience, d'une lecture, d'une rencontre essentielle à une autre, l'ont marqué pour toujours à mon chiffre personnel. La vertu du seul contact vrai retrouvé avec ce qui m'a captivé quelque part une fois ranimant, réveillant et joignant par un chemin de foudre tout ce que j'ai aimé jamais.
Merci beaucoup Thomas, c'est un texte... Pourquoi ce texte d'abord ?
Parce que j'avais cité Gracq en parlant de Jouve.
C'est vrai.
Le mois dernier, donc c'est une façon d'avoir de la suite dans les idées, c'est important quand même. J'aime beaucoup Gracq, que j'ai découvert très tardivement en lisant la littérature à l'estomac il y a quelques années, et puis en y revenant par le Rêvage des Sirtes l'an dernier, hein, ce fameux roman pour lequel il a eu le Goncourt, mais
et
qu'il
l'a refusé.
Pas eu, puisqu'il l'a refusé.
En 1951.
Voilà, et enfin, voilà, quand on lit une page de Gracq, on se rend compte à quel point une page d'écriture peut être dense, quoi, comme une trame.
C'est ce que j'allais dire. C'est assez,
Là, on a lu
complexe.
J'ai lu que 4 pages.
Ouais,
hein.
C'est assez complexe, quand même, comme type d'écriture, non ?
Oui, oui, c'est une écriture qui est...
Il faut s'y habituer.
Qui est exigeante pour le lecteur, mais qui donne en retour beaucoup, beaucoup, parce que la structure de pensée, la jubilation qu'on peut avoir à chaque page est extraordinaire.
C'est quelqu'un qui a refusé finalement toutes les étiquettes. D'une, il refuse le Goncourt, deux, il refuse aussi celle de surréaliste.
Je pense qu'il refuse tout, c'était quelqu'un d'assez secret, il est mort il n'y a pas si longtemps, hein, en 2007, il était presque centenaire. Beaucoup ne l'ont pas vu passer, il est cité quand même pas mal, il n'est pas beaucoup lu je pense, parce que la lecture est exigeante.
Et complexe.
Mais c'est un écrivain phénoménal.
Et de son vrai nom, Louis Poirier. Et pas soit. Julien Gracq.
Soit. C'est quand même que donc, ce petit recueil s'appelle Les Eaux étroites.
Absolument.
Et qu'il est une évocation de son terroir natal, en fait, hein, et de surtout la rivière qu'il pratiquait dans son enfance.
Ce qui est important, en fait, de dire, c'est qu'à partir d'un certain moment, il utilise vraiment, en fait, comme terreau, l'autofiction, c'est-à-dire vraiment la base même de ce qui est sa vie pour écrire quelque chose.
Dans ce texte, oui, précisément.
Ouais. Mmh. Merci beaucoup.
Merci.
Nous allons terminer avec nos Gédéon, nos petits coups de cœur du moment. Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Alors, mon Gédéon de la semaine est la nouvelle revue trimestrielle Portfolio. Sous-titrée « La création contemporaine en entretien et en images », elle propose une expérience immersive grâce à son grand format, 33 cm de haut sur 24 de long, ce qui permet aux doubles pages de se déployer amplement. L'impression d'entrer littéralement dans les images, de ressentir l'impact de la double page légitime le titre de la revue, Portfolio. Son rédacteur en chef, Adrien Rivière, souligne combien ce grand format va de pair avec les grands entretiens menés, qu'ils soient avec des dessinateurs, peintres, photographes, cinéastes ou street artistes. Le premier numéro de Portfolio croise les regards d'Anki Bilal et Invader. Cette rencontre éclaire le lecteur sur les grilles de lecture, les représentations du monde et les processus de création des deux artistes. Anki Bilal et Invader se saisissent de thématiques communes. Tous deux s'interrogent dans leur démarche artistique sur l'organisation et le fonctionnement de l'espace urbain. Les autres artistes conviés pour ce premier numéro s'emparent de problématiques telles que l'intelligence artificielle en milieu urbain, la représentation graphique du portrait du monde ou les effets spéciaux au cinéma. Portfolio explore le monde en images et en pensée avec une multiplicité de points de vue. Cette vision kaléidoscopique s'incarne dès la couverture ou plutôt les deux couvertures diffusées. Vous avez deux choix d'hybridation des mosaïques et rubiques d'Invader avec des visages signés Anki Bilal. Plus d'informations sur revue-portfolio.com.
En effet, c'est une très belle revue qu'on s'est tous passée. Je vais prendre quelques secondes pour la feuilleter. Guillaume.
Je voudrais vous parler d'un film qui vient de sortir, qui pour moi aurait dû avoir la Palme d'Or à Cannes, mais a eu le prix du jury. Évidemment, le prix du jury, c'est peut-être un peu plus pour les entre guillemets professionnels, alors que la Palme d'Or, c'est plus un peu pour le grand public. Ce film, c'est Zone of Interest de Jonathan Glazer. Bon, c'est pas le film le plus marrant de l'histoire du cinéma, puisque c'est un film qui est une adaptation d'un roman de Martin Amis qui est décédé le jour où le film a été diffusé à Cannes. Et pourtant, le roman de Martin Amis, ça serait plutôt une sorte de Monty Python à Auschwitz. Alors, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais le film, c'est pas du tout ça. C'est un film... On en ressort un petit peu, assez bouleversé, même si on ne voit rien parce que tout est hors champ. Mais il y a un gros travail sur le son. Je dirais que c'est un petit peu meurtre dans un jardin nazi, pour faire une référence à Peter Greenaway, son meurtre dans un jardin anglais, ou mon oncle à Auschwitz. Pourquoi ? Parce que on suit en fait la vie du chef d'Auschwitz, Rudolf Höss, et on est dans le jardin de sa femme. Sa femme vraiment a fait un joli jardin. Il y a beaucoup de fleurs, c'est très exotique. Et puis évidemment, hors champ, il se passe plein de choses. Et donc évidemment, on est à côté du camp et on entend des cris, on entend des coups de feu. Surgissent comme ça des petites choses qui nous permettent de comprendre, si on est très attentif, l'horreur absolue qu'a représenté le camp d'Auschwitz. Par exemple, on voit un groupe de femmes qui font des choix de vêtements et on comprend quand même que ces vêtements, ils viennent évidemment des déportés qui ont été volés. Parfois, il y a une pluie de cendres qui s'abat sur la serre magnifique de ce couple. Enfin bref, voilà, c'est avec Sandra Hüller qui était déjà dans Anatomie d'une chute et qui est pour moi une grande actrice évidemment. En tout cas, moi je vous conseille de voir Zone of Interest qui vient de sortir. C'est quand même une grosse claque, il y a un gros travail sur le son. On est vraiment, sans mauvais jeu de mots, emprisonné par ce film. Y a un dispositif de caméra aussi qui est incroyable, vraiment. Y a plein de caméras partout. Enfin voilà, c'est vraiment un film admirable. Mais Jonathan Glazer, si vous aviez vu ses précédents films, il fait des choses assez étranges. Notamment, il avait fait ce fameux Under the Skin, qui était quand même pareil, vraiment très bizarre et qui parfois emprisonnait le spectateur. Vraiment, c'est un film à voir.
Merci beaucoup, Guillaume. On essaiera de trouver le courage d'aller voir ce film. Je crois qu'il en faut. Effectivement, moi, je ne vais pas terminer ce Gédéon avec aussi la dimension très, 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 très joviale que j'arbore d'habitude. J'ai envie de vous parler du travail d'Edith Roux, en ce moment au Bleu du Ciel. Sa série s'appelle Les Exilés. C'est une série qui évoque les exilés ouïghours. Ce sont des portraits qu'elle a réalisés dans différentes villes, Paris, Munich, La Haye, Istanbul. Cette galerie de portraits fait suite au travail Les Dépossédés, réalisé dans la région autonome ouïghour en Chine, Turkestan oriental, qui a donné lieu à un livre du même nom en 2013. Donc c'est un très beau travail parce que, évidemment, il est difficile de documenter aujourd'hui ce qui se passe en Chine. Elle donne juste des visages à des gens qui ont tout perdu, qui sont obligés de vivre loin de chez eux et pourtant qui ont une très belle dignité, une très belle puissance à l'image. Je vous invite à découvrir cette exposition qui est encore présente au Bleu du Ciel jusqu'au 2 mars 2024. Je vous le rappelle, les références, Edith Roux, Les Exilés, à la galerie Le Bleu du Ciel. À la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.